Laudetur Jesus Christus.
L'Union européenne, une nouvelle fois confrontée à ses divisions dans le dossier de la guerre en Ukraine. Le président français est attendu en Pologne ce jeudi pour réaffirmer son soutien à Kiev aux côtés de Varsovie. Hier, Vladimir Poutine s'est lui entretenu avec Viktor Orban, le premier ministre hongrois qui plaide pour des négociations de paix. Nous irons à Moscou au début de ce journal. En Allemagne, le chancelier Olaf Scholz fait un pas vers les élections anticipées. Il a demandé hier que le Bundestag dépose une question de confiance envers son gouvernement. Les explications à suivre de notre correspondante. À la une également, la grande confusion qui se poursuit en Corée du Sud, où l'opposition veut destituer un président qui refuse de démissionner. Nous reviendrons aussi sur le discours sur l'état de la nation du président congolais Félix Tshisekedi et ses ambitions de modifier la constitution. Et puis, à 3 jours de la visite du pape en Corse, gros plan ce matin sur les liens très forts entre François et la piété populaire. Des liens, on le verra, profondément ancrés dans la foi populaire d'Amérique latine.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, Emmanuel Macron en visite en Pologne ce jeudi. Le président français doit venir discuter d'un renforcement de l'aide à l'Ukraine et sera reçu à la mi-journée par le chef du gouvernement polonais, Donald Tusk, avant de s'entretenir avec le président, Andrzej Duda. L'objectif, selon Paris, est de soutenir Kiev pour qu'elle soit en position de force face à la Russie quand s'ouvriront des négociations de paix. Moscou peut, de son côté, jouer sur la division des Européens. Hier, Vladimir Poutine s'est entretenu avec Viktor Orban, le premier ministre hongrois, qui a toujours plaidé au sein de l'UE pour un compromis avec la Russie. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
Viktor Orban figure parmi les rares dirigeants occidentaux à entretenir des contacts réguliers avec Vladimir Poutine depuis février 2022. Certes, la Hongrie importe près des 2/3 de son gaz de Russie, mais comme Budapest assume la présidence tournante de l'Union européenne jusqu'à la fin de l'année, Viktor Orban a de grandes ambitions et s'est attelé à la recherche d'une solution politico-diplomatique au conflit en Ukraine. Telle était la raison d'être de son entretien du jour avec le président russe, qui, d'après le Kremlin, a dénoncé la ligne destructrice du régime de Kiev qui exclut une résolution pacifique du conflit. Allusion aux demandes répétées de Kiev de bénéficier de la protection militaire de l'OTAN. Reste que Viktor Orban compte sur son aptitude à parler également aux dirigeants occidentaux et notamment à Donald Trump, qu'il soutient depuis 2016 et qu'il a déjà rencontré 2 fois cette année pour parvenir à une solution. Il s'est même entretenu lundi avec le président élu en Floride afin de mener à bien, selon Budapest, une mission pour la paix en Ukraine. Le détail de ces conversations reste bien sûr confidentiel. Tout au plus, a-t-on appris qu'il avait également été question de projets mutuellement bénéfiques entre Moscou et Budapest dans le domaine énergétique. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican.
Et sur le terrain ukrainien, les bombes russes continuent de pleuvoir. Le bilan d'une frappe mardi sur la ville de Zaporijja, dans le sud du pays, est monté à 10 morts et 22 blessés. Une clinique et un immeuble de bureau du centre-ville ont notamment été visés. Hier, par ailleurs, un responsable du renseignement américain a mis en garde contre l'utilisation possible par la Russie d'un missile supersonique Oreshnik. Ces missiles de longue portée qui peuvent transporter des charges nucléaires. Une première frappe sans charge nucléaire avait visé au mois de novembre la ville ukrainienne de Dnipro. L'Allemagne avance officiellement vers de nouvelles élections anticipées. Hier, le chancelier Olaf Scholz a déposé une demande au Bundestag, la chambre basse du Parlement, pour poser une question de confiance. Ce sera lundi prochain, une étape essentielle pour anticiper le scrutin. À Berlin, les explications de Delphine Herbollier.
C'est une procédure a priori sans aucun suspense. Depuis un mois, le chancelier Olaf Scholz n'a plus de majorité depuis que lui et ses partenaires écologistes se sont séparés de leurs alliés libéraux. Cela a marqué la fin de 3 années difficiles entre 3 partis opposition souvent contraires. Ne pouvant désormais plus vraiment passer de loi, le chancelier doit donc dissoudre le Bundestag et il est le seul à pouvoir le faire. Pour cela, il doit poser une question de confiance et la perdre. Ce vote aura lieu lundi prochain, le 16 décembre. Une fois la confiance rejetée, Olaf Scholz aura 21 jours pour demander au président de la République d'organiser de nouvelles élections, et cela dans les 60 jours. Là aussi, peu de suspense, on connaît déjà la date de ce scrutin anticipé, ce sera le 23 février. Toute cette procédure a été finalisée en amont et en accord avec le principal parti d'opposition, les chrétiens démocrates. Par ailleurs, grand favori des élections à venir. Le chancelier Olaf Scholz croit, lui, en une possible réélection. Il candidate de nouveau pour son parti social-démocrate, mais la barre est placée très haut. Pour rester chancelier, Olaf Scholz devra rattraper les 15 points de retard qui le séparent dans les sondages de la droite classique. Un vrai défi. Berlin, Delphine Herbelier pour Radio Vatican.
Pour la première fois depuis l'accord de cessez-le-feu signé le 27 novembre, l'armée israélienne a procédé au retrait de ses troupes dans une localité du sud Liban, c'est le village de Qiam. Un pas important à saluer le commandement central américain pour le Moyen-Orient qui supervise la mise en place de cet accord. La Syrie au cœur de nouvelles tractations diplomatiques pour le secrétaire d'État américain. Anthony Blinken est en Jordanie aujourd'hui et sera attendu en Turquie demain. Hier, à l'issue de l'audience générale, le pape François avait fait part de ses prières pour le peuple syrien, qu'il puisse vivre en paix et en sécurité sur sa terre bien-aimée. Le Saint-Père qui avait prié aussi pour que les différentes religions puissent marcher ensemble dans l'amitié et le respect mutuel pour le bien de cette nation affligée par tant d'années de guerre. Fin de citation. La confusion règne toujours en Corée du Sud. 10 jours après la tentative du président Yoon d'instaurer la loi martiale, la vie politique du pays connaît de nombreux soubresauts. L'opposition, majoritaire à l'Assemblée nationale, veut destituer le chef de l'État qui refuse de démissionner, soutenu du bout des lèvres par son parti. Quant à la population sud-coréenne, Xavier Sartre, des milliers de manifestants continuent de protester devant le Parlement, sans compter l'intervention de la police.
Oui, un groupe de policiers encore tenté aujourd'hui en début d'après-midi, heure locale, de perquisitionner les bureaux de la présidence dans le cadre d'une enquête sur l'instauration de la loi martiale. Hier, les enquêteurs ont été entravés dans une première tentative de perquisition concernant le ministère de la Défense, dont l'ancien titulaire est en prison depuis dimanche pour abus de pouvoir, pour entraver l'exercice de droit. Il a reçu la visite lui aussi de la police ce matin. Tout cela sous l'œil de la population. Des milliers de personnes manifestent toujours depuis plusieurs jours devant le Parlement. Ils réclament non seulement le départ du président Yoon, mais aussi la dissolution de son parti, le PPP. Car cette crise se joue surtout au niveau politique. L'opposition majoritaire au Parlement, dominée par le Parti démocrate, a déposé une nouvelle motion de destitution du chef de l'État qui sera débattue samedi en fin d'après-midi. Or, il lui faut convaincre au moins 8 membres du parti présidentiel pour renverser Yoon. 5 parlementaires conservateurs ont déjà donné leur disponibilité, mais le PPP joue la montre, il veut éviter ce vote. Il tente pour cela d'organiser la démission du président dans les meilleures conditions pour lui, en février ou en mars. Pas sûr cependant que les Sud-Coréens aient autant de patience.
Xavier Sartre, une transition démocratique fluide au Ghana. Hier, à Accra, le président élu dimanche dernier, John Mahama, a rencontré son prédécesseur qu'il a félicité pour sa victoire remarquable. Déjà président de 2013 à 2017, John Mahama sera investi le 7 janvier prochain. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a prononcé hier son traditionnel discours sur l'état de la nation. C'est son premier du genre depuis sa réélection pour un second mandat fin 2023. Le président congolais qui a confirmé son projet de modifier la constitution alors que l'opposition le soupçonne de vouloir briguer un troisième mandat. À Kinshasa, Pascal Moulégua.
Route, pont, école, hôpitaux et aéroports, la RDC est en chantier, confirme le chef de l'État congolais, vantant notamment une croissance de 6% cette année au-delà de la moyenne africaine. Ce n'est qu'à la fin de son discours de près de 2 heures que le président Félix Tshisekedi abordait les sujets où beaucoup l'attendaient, celui de la révision de la Constitution. En revenant sur le démarrage raté de sa mandature en raison des retards pour la mise en place des institutions politiques, le président Tshisekedi a évoqué des délais contraignants prévus dans l'actuelle loi fondamentale et estime que cette situation nous invite, précise-t-il, à une réflexion commune. Une démarche, selon lui, qui consiste, précise-t-il, uniquement à construire un cadre constitutionnel plus adapté aux considérations de notre peuple. Pour l'opposition, le président pourrait précipiter sa chute. Le peuple a demeuré pendant 6 ans dans la pauvreté, le chômage, la corruption, les mensonges d'État, les détournements et l'insécurité, croit savoir épingler les porte-parole de Lamuka, l'une des principales coalitions de l'opposition. Pascal Moulégua, Kinshasa. RFI pour Radio Vatican.
Au Mali, un rapport de l'ONG Human Rights Watch dénonce aujourd'hui les atrocités commises contre les civils par l'armée malienne, son allié russe Wagner, ainsi que par les groupes islamistes armés. Des exactions qui ont eu lieu après le départ de la MINUSMA, la mission de l'ONU, il y a 1 an. Un peu plus d'un an après son déplacement à Marseille, le pape François retourne dimanche en France, dans la ville d'Ajaccio, en Corse, un nouveau rivage méditerranéen qui, pour la première fois, accueillera un successeur de Pierre. À l'avant-veille de son 88e anniversaire, François vient clore un colloque sur la religiosité populaire telle qu'elle est vécue dans le sud de l'Europe et découvrir de ses yeux le vif attachement des Corses à leur tradition religieuse. Venu de l'autre bout du monde, François l'Argentin est lui-même profondément imprégné de cette manière de se relationner à Dieu en dehors des sacrements. Sa première catéchiste, sa grand-mère Rosa, l'emmenait ainsi tout petit s'agenouiller dans la rue au passage du Christ gisant lors des processions du Vendredi Saint. Ce matin, nous vous proposons de revenir sur ce lien solide qui unit François à la piété populaire, qualifiée par ses soins de système immunitaire de l'Église. Véronique Le Carros est directrice du département de théologie de l'Université catholique de Lima, au Pérou. Elle revient ce matin dans notre dossier sur les expressions de la religiosité populaire en Amérique latine.
L'eau bénite, les processions, les pèlerinages, tous ces sacramentos, c'est très très fort en Amérique latine. Et les bénédictions, on bénit tout, les voitures, on bénit les maisons, on bénit les business, on bénit des choses qui n'ont apparemment rien à voir avec le religieux, le sacré. Il n'y a pas cette séparation entre sacré et profane, non ? Qu'on sent beaucoup plus fort dans les pays sécularisés, cette division en sphères. Il y a cette forme de présence du divin, des anges, des esprits, des saints, qui est là, qui est concret, qui est palpable.
Et c'est dans ce contexte que s'est développée la théologie de la libération et la théologie du peuple, dans les années de formation de Jorge Maria Bergoglio au sein de la compagnie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui caractérise et ce qui distingue ces deux théologies et comment la piété populaire s'y insère ?
L'attention aux pauvres, tous les gestes du pape François envers les migrants, envers les marginalisés. Ça, c'est la base commune des deux théologies et une attention au concret. La grande différence, c'est la relation à la piété populaire. Dans la théologie de la libération, on dit d'accord, ça représente un espace de foi, mais ça peut être une illusion, ça peut empêcher l'action. Parce qu'on dit, bon, Dieu va le résoudre en entier. Mais ça, ce n'est pas là du tout dans la théologie du peuple. C'est au contraire cette valorisation de la piété populaire. Et penser qu'il y a dans cette piété populaire une forme de mystique liée à cette idée de peuple, beaucoup de sagesse.
En 2007, les évêques d'Amérique latine et des Caraïbes sont réunis à Aparecida. Le cardinal Bergoglio est rédacteur du document final. Il écrit que la piété populaire est une manière légitime de vivre sa foi. Qu'entend-il par là ?
Il y a eu peut-être pendant des siècles une grande méfiance et il y a eu petit à petit une évolution, je dirais à partir des années 80. Il y a un phénomène qu'il faut tenir en compte quand on parle de l'Amérique latine, c'est la croissance des groupes évangéliques. Il y a des réflexions du cardinal Bergoglio à Aparecida où précisément il voit aussi dans la piété populaire, parce que c'est quelque chose de très profond dans le cœur, qui s'oppose, qui est un frein, un barrage au groupe évangélique. Et si on lit bien le texte d'Aparecida, aussi, il note qu'il y a une perte. La tradition ne se transmet plus aussi facilement de génération en génération. Donc l'Église considère que la grande force du catholicisme, c'est la culture, la piété populaire. C'est-à-dire, c'est ce qui permet de garder des racines, c'est ce qui permet de garder une culture, de faire face aux évangéliques, de faire face à la sécularisation, à le consumisme.
Le pape parle de la piété populaire comme du système immunitaire de l'Église, mais il est conscient néanmoins qu'il y a un risque de récupération de la religiosité populaire, estimant d'ailleurs nécessaire un travail de purification.
C'est qu'il y a toujours cette idée qu'il peut y avoir des dérapages. Effectivement, les criminels, ils ont le Christ ou la Vierge tatoué dans leur dos parce qu'ils pensent que personne ne va oser tirer sur le Christ ou la Vierge. Il y a des tueurs à gages qui prient pour que tout aille bien dans ce qu'ils appellent leur travail avant d'aller tuer quelqu'un.
Et sur ce travail de purification, justement, est-ce que vous avez vu François l'entreprendre depuis le début de son pontificat ? Et si oui, comment ?
Par exemple, le pape François était très courageux quand il a parlé des mafias en Italie. Mais il disait, c'est pas possible qu'avec de l'argent gagné sur les drogues, on puisse participer dans des processions, on mette l'argent dans le religieux. C'est un blanchiment de l'argent et de l'âme. C'est une manière de purification.
Et voilà, le pape François et sa relation à la piété populaire à la une de notre dossier ce matin. Interrogée par Marie Duhamel, la théologienne Véronique Lecaros, directrice du département de théologie à l'Université catholique de Lima, au Pérou, était l'invitée de Radio Vatican. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information du pape, de l'Église et du monde, ce sera à 13h en direct de Rome. J'aurai le grand plaisir de vous y retrouver. Je vous souhaite d'ici là une excellente journée.